RFI 5h à Paris, les 4h en temps universel. Le retour de l'information avec vous, Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Nemo en Peace et à tout à l'heure à la une de l'actualité internationale en ce samedi 22 mars 2025. Réclusion criminelle à perpétuité pour Medine Mouche, le geôlier de l'État islamique. La cour d'assises spéciale de Paris a délibéré pendant plus de 10 heures. Medine Mouche, reconnu coupable de séquestration, de torture et de barbarie contre 25 occidentaux détenus entre 2013 et 2014, mais aussi contre de très nombreux anonymes syriens. En Turquie, incident à Istanbul et Izmir après les manifestations monstres qui ont eu lieu hier partout dans le pays. 300 000 protestataires rien qu'à Istanbul, selon l'opposition, alors que les Kurdes du PKK fêtent Nowruz, le nouvel an, dans les montagnes. Le PKK qui vient d'initier un processus de paix avec Ankara. Aux États-Unis, dites 47, Donald Trump, 47e président, baptise le F-47, nouvel avion de combat commandé à Boeing. Enfin, Big George nous a quittés. George Foreman, l'un des plus grands poids lourds de l'histoire de la boxe, adversaire magnifique de Mohamed Ali à Kinshasa en 1974 pour le célèbre Rumble in the Jungle. Le colosse s'est éteint à l'âge de 76 ans. Pas la moindre réaction au moment du verdict. Medine Mouche a pourtant hier soir été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité après plus de 10 heures de délibération de la cour. Il était presque 21h hier à Paris lorsque la cour d'assises spéciale a reconnu Medine Mouche coupable d'avoir été le geôlier de 25 journalistes et humanitaires occidentaux retenus en otage par le groupe islamique en 2013. Reconnaissance aussi de toutes les victimes syriennes anonymes. Déjà condamné à la perpétuité en Belgique pour l'attentat du musée juif de Bruxelles, il est condamné pour séquestration, acte de torture et barbarie, Laura Martel.
Medine Mouche est resté impassible à l'énoncé de la peine, conforme aux réquisitions. En demandant la perpétuité, l'avocat général avait souligné que le parquet l'a réservé aux djihadistes les plus dangereux, pointant que si quelques 300 terroristes ont été jugés depuis 6 ans, la réclusion à vie n'a été prononcée qu'une vingtaine de fois, dont 10 pour des accusés détenus. Benjamin Chambre avait alors insisté sur la dangerosité extrême et persistante de Medine Mouche, qui dès le début du procès s'était en effet revendiqué soldat de l'État islamique, tout en niant son rôle de geôlier. J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais. Jamais, a-t-il encore clamé lors de ses derniers mots, le fait que je sois incarcéré ne changera rien, je suis un homme debout. Pour ce qui est de ces deux co-accusés présents dans le box, le français Abdelmalek Tanem, également condamné pour séquestration, s'est infligé 22 ans de prison. Kaïs Al-Abdallah, un Syrien considéré comme un haut cadre de l'EIRAK, a lui écopé de 20 ans la peine maximale pour association de malfaiteurs terroristes. La cour n'a pas motivé sa décision, mais concernant la séquestration et les actes de torture et de barbarie, elle a élargi le périmètre des victimes reconnues à l'ensemble des 25 journalistes et humanitaires occidentaux kidnappés à la même période en Syrie, y compris ceux qui ne sont jamais revenus, mais aussi aux ressortissants syriens non identifiés, dont les cris hantent encore les ex-otages.
Laura Martel du service France de RFI. Autre grand titre ce matin, troisième journée, troisième nuit de protestation. En Turquie, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays. L'opposition revendique 300 000 manifestants rien qu'à Istanbul, où le maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, était arrêté mercredi pour corruption et terrorisme, des rassemblements interdits par le pouvoir. Au moins 97 personnes ont été arrêtées, des incidents ont éclaté à Istanbul et Izmir. Et c'est dans ce contexte que le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a célébré de son côté Nowruz, le nouvel an kurde, célébration dans les montagnes du Kurdistan irakien, où la guérilla s'est réfugiée depuis les années 90 pour poursuivre sa lutte contre la Turquie. Nowruz très particulier cette année, puisque le fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, a appelé à la dissolution du groupe armé en février, l'occasion pour les partisans de fixer leurs conditions dans ce processus de paix à peine amorcé. Reportage sur place, Lucas Lazo.
Sous les cimes enneigées des monts Kandil, des milliers de partisans du PKK bravent la pluie torrentielle pour esquisser des pas de danse entre les discours plus politiques. Tara Hussein, organisatrice de l'événement.
La première chose que la Turquie doit faire, c'est libérer Öcalan. Comment croire autrement qu'elle souhaite la paix ? Sans ça, c'est qu'elle refuse que notre combat devienne une résistance civile. Et dans ce cas-là, le PKK ne baissera pas les armes.
27 ans derrière les barreaux ont renforcé l'aura d'Öcalan, mais sa libération ne saurait suffire. Shinaz, 60 ans et dont la fille est morte au combat sous l'uniforme du PKK, a un message pour le président turc.
En tant que mère, j'implore Erdogan d'arrêter de tuer des femmes et des enfants. Mais s'il continue à nous agresser, nous allons continuer à nous défendre.
La mort 5 jours plus tôt d'une famille kurde en Syrie dans une frappe turque est sur toutes les lèvres. Et malgré le cessez-le-feu décrété par le PKK, les bombardements se poursuivent sur ses positions dans les montagnes irakiennes. Pour cet homme au visage dissimulé, les conditions ne sont pas réunies pour baisser les armes.
La Turquie n'a pas d'honneur. Je préfère que le PKK se batte jusqu'à la libération du Kurdistan.
Plusieurs militants nous ont cependant confié vouloir voir l'Europe soutenir ce processus de paix au risque de le voir s'effondrer. Lucas Lazo, de retour de Kandil, RFI.
En Israël, la Cour suprême suspend le limogeage de Ronen Bar, le chef du Shin Bet, les services de renseignement israéliens. Limogeage voulu par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, approuvé hier par son gouvernement, mais retoqué par la Cour qui annonce une mesure provisoire de suspension le temps d'examiner les recours contre cette décision. Israël qui continue par ailleurs de bombarder Gaza, 11 nouveaux morts ce vendredi et 5 rien que cette nuit, ce qui porte à 520 le bilan des morts depuis mardi selon la défense civile gazaoui, alors que dans le même temps le ministre israélien de la défense Israël Katz a menacé d'annexer des parties de l'enclave palestinienne si le Hamas ne libère pas la 60 centaines d'otages toujours retenus sur le territoire. RFI 5h06 à Paris et N'Djamena, le Tchad, où le budget humanitaire de l'ONU pour 2025 a quasiment été divisé par deux, annonce faite par l'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires onusiennes. L'enveloppe passe d'1,5 milliard à environ 800 millions de dollars, une baisse drastique sur fond de coupes budgétaires américaines aux lourdes conséquences sur le terrain, Nadia Ben Mafoud.
L'afflux massif de réfugiés soudanais et de retournés tchadiens dans l'est du pays, la présence de plus de 125 000 réfugiés centrafricains dans le sud, ou encore les effets du changement climatique qui provoquent notamment des inondations massives avec près de 2 millions de personnes touchées l'année dernière. Ce sont les défis auxquels doivent faire face les différents organes des Nations Unies au Tchad. François-Xavier Batalingaya, coordinateur président de l'ONU à N'Djamena.
À cause de ces défis, le financement dont on avait besoin, c'est 1,1 milliard $454 millions. Avec le gel des financements américains, mais aussi à cause de la multiplicité des crises à travers le monde, tous nos bailleurs de fonds ont réduit leur financement.
Pour François-Xavier Batalingaya, ce manque de financement aura des conséquences concrètes et très rapidement.
Ça va être dramatique. C'est 2 800 000 personnes que nous pensons assister. C'est environ 51% de ce qu'on avait planifié. Nous aurons environ 537 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Ces enfants ont besoin de traitements qui proviennent normalement de l'UNICEF. L'UNICEF aura besoin d'un déficit de financement d'au moins 33 millions de dollars. On va être obligé de commencer à fermer certains centres de traitement thérapeutique. C'est très dangereux parce que les enfants vont mourir.
Face à cette situation, le coordinateur résident de l'ONU au Tchad espère malgré tout que des fonds supplémentaires seront débloqués au cours de l'année. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Aux États-Unis, Donald Trump, 47e président, annonce un nouveau contrat avec Boeing pour une nouvelle génération d'avions de combat, justement baptisé F-47, une commande de plusieurs milliards de dollars qui arrive au bon moment pour Boeing, empêtrée dans une crise sans précédent en raison de nombreux problèmes techniques sur ses appareils. À New York, Lubna Anaki.
F-47, it's a beautiful number.
En annonçant la nouvelle, Donald Trump se réjouit du nom donné à la toute nouvelle génération d'avions de combat. F-47, ça ne pouvait que lui plaire, lui, le 47e président des États-Unis. Ces avions doivent, selon lui, redonner aux Américains une domination dans les airs.
Le F-47 sera l'avion le plus sophistiqué, le plus efficace, le plus génial jamais construit. Rien au monde ne peut rivaliser au niveau technique. Aucun avion de chasse ne possède les mêmes capacités de vitesse, de manœuvrabilité et de capacité.
Ce contrat qui a fait l'objet d'un appel d'offres a été accordé à Boeing. Une bonne nouvelle pour l'avionneur qui traverse une très mauvaise passe après une série d'incidents en vol et les mésaventures de sa filiale spatiale Starliner. D'ailleurs, Donald Trump lui-même s'était plaint car la livraison du nouvel avion présidentiel Air Force One par Boeing a pris du retard. En tout cas, ce contrat dont la phase de développement s'élève à plus de 20 milliards de dollars est une aubaine pour l'avionneur. L'action de Boeing a d'ailleurs progressé hier de 4,2%. Après ces annonces. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et puis en France, 2 personnes sont mortes à La Réunion des suites de l'épidémie de chikungunya sur l'île. 2 victimes âgées de 86 et 96 ans. L'agence régionale de santé qui alerte sur l'urgence de vacciner en priorité les personnes âgées. En 2006, lors de la précédente épidémie, 1/3 de la population avait été infectée. Le chikungunya qui avait alors fait 225 morts. Un virus de retour. En 2025, plus de 8000 personnes ont contracté la maladie ces 6 derniers mois, Amélie Beaucourt.
Pour l'épidémiologiste Antoine Flao, il est le plus souvent bénin, mais peut être fatal pour les personnes âgées ou très vulnérables.
Le mot chikungunya en swahili voudrait dire marcher courbé, c'est-à-dire que vous avez des douleurs articulaires telles que vous êtes pratiquement dans l'impossibilité de vous mouvoir pendant quelque temps.
Découvert en 1952, le virus s'est transmis par les moustiques tigres qui se sont invités en nombre dans les villes réunionnaises depuis un mois.
Après la faveur du cyclone qui est passé récemment sur l'île, et une grande chaleur qui fait que la pullulation du moustique en ce moment s'est multipliée. Mais n'oublions pas, c'est un moustique domestique. C'est-à-dire que c'est nous qui l'élevons sur nos terrasses, dans nos jardins, dans les soucoupes des pots de géranium. C'est un moustique qui est proche des habitations et qui vient piquer d'ailleurs le plus souvent à l'extérieur, pas à l'intérieur des maisons.
C'est en piquant une personne infectée que le moustique transporte ensuite le virus et le transmet en piquant de nouveau. La propagation est donc très rapide.
Il n'y a pas beaucoup de raisons que les autres îles alentours soient épargnées. C'est un problème qui doit vraiment aujourd'hui concerner l'ensemble des îles de l'océan Indien.
Selon l'Institut Pasteur, à l'exception de l'Océanie, les épidémies de chikungunya n'ont épargné aucun continent sur la planète.
Explication signée Amélie Beaucourt. On termine sur les rings et le dernier combat d'une légende du noblard.
The great man has done it. This is the most joyous scene ever seen in the history of boxing. This is an incredible scene.
Et la disparition de l'immense George Foreman, mort cette nuit à l'âge de 76 ans, mythique champion du monde et champion olympique des poids lourds. Il reste dans l'histoire pour le combat du siècle, Rumble in the Jungle, en octobre 1974. On vient d'en entendre un extrait, combat dont il était largement favori, mais finalement perdu face à Mohamed Ali. Retraité à 28 ans, Pasteur à 29, il reviendra sur les rings pour redevenir champion du monde à l'âge de 45 ans. Big George, qui a définitivement quitté les rings cette nuit, annonce sa famille. Et puis, un dernier mot de football sur le terrain, cette fois-ci, avec la suite des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde. Petite victoire, mais succès très précieux pour la RDC face au Soudan du Sud. 1-0 grâce à un but de Théo Bongonda. 1-0 aussi pour la Côte d'Ivoire contre le Burundi grâce à Evan Guessant. Le Niger, qui a frôlé l'exploit, le Mena National, a mené mais a finalement perdu à la dernière seconde contre le Maroc. Défaite 2-1. Carton au Ghana, du Ghana justement contre le Tchad 5-0. Carton aussi du Burkina Faso 4-1 face à Djibouti. Et puis petit match 0-0 entre la Guinée et la Somalie. RFI 5h12 ici à Paris. L'info continue.
RFI, toute l'actualité.
Martin Guez.
Et c'est l'heure de notre petit tour d'horizon de l'actualité francophone. Le financement suisse de l'UNRWA prolongé, un nouveau partenariat militaire entre l'UE et le Canada, l'AES qui quitte l'Organisation internationale de la francophonie et la disparition de l'actrice belge Émilie Dekken. Voilà les gros titres ce matin de l'accent des autres, mais je vous laisse avec Olivier Nederland pour plus de détails.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Et voici l'actualité de la semaine avec les partenaires des médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ICI et la RTBF. On va commencer avec cette décision en Suisse. La Confédération va finalement poursuivre son soutien financier à l'Organisation des Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens, Pierre-Anne Chauffat.
Après de premières attaques contre l'UNRWA en décembre dernier lors de l'examen du budget, la droite conservatrice a remis l'ouvrage sur le métier, mais le sort des Palestiniens et l'importance du droit humanitaire pour la Suisse ont finalement pesé plus lourd au Parlement.
Le Canada négocie actuellement avec l'Union européenne. Il s'agit, Karine Matteux, de conclure un nouveau partenariat militaire.
Oui, devant des menaces économiques et expansionnistes du voisin américain, le Canada veut diversifier ses sources d'approvisionnement en armement.
La défense, il en est question un peu partout aussi en Europe et notamment en France. On ne parle pas du retour du service militaire obligatoire pour l'instant, mais le gouvernement veut doubler les effectifs de la réserve opérationnelle des armées. Nous verrons comment les jeunes militaires français appréhendent cette nouvelle donne. Sur le continent africain, on retiendra cette semaine ce triple départ. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali annoncent qu'ils quittent l'Organisation internationale de la francophonie, Nicolas Sûr.
Oui, ces trois pays dirigés par des pouvoirs militaires avaient été sanctionnés par l'OIF après avoir connu des coups d'État. Ils accusent l'organisation de partialité car elle s'était montrée plus clémente vis-à-vis de régimes plus proches de la France.
Enfin, elle a brillé au cœur de la francophonie pendant 25 ans. La comédienne belge Émilie Dequesne est décédée à l'âge de 43 ans. De nombreuses personnalités ont salué son talent et son courage face au cancer. Jacques Crémers.
Oui, Émilie Dequesne, c'était Rosetta, prix d'interprétation féminine à Cannes en 1999. Elle a tourné dans une quarantaine de films, remporté de nombreuses récompenses. Mais on retient aussi son combat courageux contre la maladie.
Il s'en est fallu finalement de 6 petites voix au Parlement suisse, 6 voix pour sauver finalement le soutien helvétique à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Il s'agit donc de l'UNRWA, Pierre-Han.
La Chambre du Peuple avait suivi la proposition des conservateurs de l'UDC, faute de pouvoir exclure avec certitude tout lien de l'organisation humanitaire avec le Hamas, la Suisse devait retirer son financement. Mais cette semaine, la Chambre des cantons a finalement refusé par 25 voix contre 19 de ne plus soutenir l'UNRWA, et pour y parvenir, la gauche a eu besoin du soutien en bloc des élus romands du centre-droit, à l'image de la fribourgeoise Isabelle Chassot.
Son adoption aurait des conséquences non seulement sur l'engagement et la crédibilité internationale de notre pays comme dépositaire des conventions de Genève, mais avant tout pour des centaines de milliers de victimes civiles, non seulement à Gaza et dans les territoires occupés, mais également en Jordanie, au Liban et en Syrie.
La situation des Palestiniens a donc joué un rôle déterminant, d'autant que le vote est intervenu au lendemain de la reprise des bombardements israéliens sur Gaza. Le directeur de l'UNRWA, le Suisse Philippe Lazzarini.
Je ne sais pas si le contexte a joué en faveur de ce vote, mais je pense qu'un vote négatif au lendemain d'une reprise de la guerre, d'une nuit absolument meurtrière, aurait été effectivement un vote incompréhensible.
La crédibilité internationale de la Suisse et son potentiel rôle d'exemple dans la défense du droit humanitaire étaient donc aussi en jeu.
Alors, est-ce que la question est définitivement tranchée ?
Pas vraiment, puisque le Conseil a dans le même temps demandé au gouvernement de s'engager à l'international pour une autre solution que l'UNRWA, un message incompréhensible pour l'UDC, Marco Chiesa.
Il y a quand même une méfiance par rapport à l'UNRWA. C'est un message chaotique, à mon avis. Parce que d'une part, on dit qu'il faut continuer avec eux, mais d'autre part, on dit qu'il faut la substituer dans le futur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Faute d'une alternative crédible, c'est bien l'organisation de l'ONU qui poursuivra sa mission auprès des Palestiniens, avec le soutien financier de la Suisse.
Voilà pour cette aide finalement maintenue donc en Suisse. On va reparler défense à présent parce que le Canada et l'Union européenne se rapprochent d'un partenariat en la matière, Karine.
Le Canada se détourne de son allié historique, les États-Unis, pour participer au plan de réarmement de l'Europe qui compte investir des milliards de dollars en dépenses militaires face à la menace russe et au désengagement américain. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, précise que la collaboration avec des pays alliés, comme le Canada, va s'intensifier.
We also include, of course, in our thoughts all these like-minded countries from Canada.
La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, affirme pour sa part que des discussions sérieuses ont lieu pour que des entreprises canadiennes participent à ce plan de défense.
We need to make sure that we can be closer to the Europeans. We're over-reliant right now on the US.
Il faut se rapprocher des Européens, dit-elle. Le Canada est trop dépendant des États-Unis.
Oui, et d'ailleurs, le nouveau Premier ministre du Canada s'est rendu en Europe juste après avoir prêté serment.
C'est symbolique parce que la première visite officielle du Premier ministre se fait de coutume aux États-Unis, mais pas cette fois. Il s'est plutôt rendu à Paris et Londres, rencontrer Emmanuel Macron, Keir Starmer et le roi Charles III. Écoutons Mark Carney.
C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables.
Le nouveau Premier ministre canadien, donc, Mark Carney, qui a l'intention de dissoudre très rapidement le Parlement et donc de déclencher, Karine, des élections.
Bien voilà, le successeur de Justin Trudeau se lancera dans une campagne électorale alors qu'il vient à peine d'être assermenté comme Premier ministre. Mais c'était attendu. Les partis politiques sont d'ailleurs en mode recrutement pour tenter de présenter des candidats dans le plus grand nombre de circonscriptions canadiennes.
Et en attendant la dissolution du Parlement du Canada, c'est prévu ce dimanche, on va encore parler défense en France, cette fois où malgré le rapprochement États-Unis-Russie, il n'est pas question à ce stade d'un retour au service militaire obligatoire. Mais le gouvernement souhaite doubler les effectifs de la réserve opérationnelle des armées. Alors comment les jeunes militaires français appréhendent-ils cette situation? Ici, a sondé plusieurs sous-officiers à Nantes. Ils viennent de signer leur contrat d'engagement dans l'armée de terre. C'est un reportage d'Anne Bertrand pour Ici Loire Océan.
Vous êtes bien monsieur Daniel Clément, vous avez décidé de signer un contrat d'engagement en tant que sous-officier à l'école des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexant pour une durée de 5 ans dans la spécialité artillerie, correct ?
Correct.
Ce n'est pas un hasard si Clément a choisi de se spécialiser dans les armes lourdes.
On parle aujourd'hui beaucoup, notamment en Ukraine, des canons César, dont la France a livré un certain nombre à ce pays. C'est vrai qu'on a du matériel quand même de qualité, d'autant qu'on parle beaucoup en ce moment de conflits de haute intensité.
Et ces menaces grandissantes n'ont pas fait non plus reculer Guéwen.
Non, au contraire, je trouve ça un peu exaltant parce que d'une certaine manière, on va se sentir utile par rapport au contexte géopolitique qui se passe dans le monde.
Ça ne vous fait pas peur ?
Un peu, mais c'est le risque du métier.
Même discours chez Clémence, la seule femme sur ses 9 sous-officiers fraîchement engagés.
Ça m'inquiète pas, c'est les risques du métier. Et puis, on va être préparé, on va être beaucoup accompagné. Puis c'est aussi une grande famille, l'armée.
Et c'est dans des moments comme cela qu'il faut se mobiliser, selon Lucien, ancien entraîneur de foot.
C'est important de ne pas forcément rester chez soi et attendre que ça se passe. Voilà, moi, j'ai eu l'envie de m'engager et de servir à la France.
Voilà, vous avez tous signé votre contrat d'engagement. La grande aventure commence dès maintenant.
Un reportage d'Anne Bertrand pour Ici Loire Océan.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
L'Organisation internationale de la francophonie qui entend promouvoir la langue française, la diversité culturelle, mais aussi la paix, la démocratie et les droits de l'homme vient de perdre 3 de ses membres. Et cela au moment où l'on célébrait la journée internationale de la francophonie, c'était ce jeudi. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont fait savoir coup sur coup qu'ils quittaient l'OIF. Et c'est une page d'histoire qui se tourne pour cette organisation, Nicolas.
Oui, car l'organisation perd l'un de ses membres fondateurs, le Niger. L'OIF a vu le jour le 20 mars 1970 à Niamey, sous l'impulsion du président nigérien de l'époque, Amani Diori, l'un des pères de la francophonie institutionnelle. En décembre 2023, première rupture, le Niger est suspendu de l'organisation suite au coup d'État qui a renversé le président Bazoum 6 mois plus tôt. Aujourd'hui, il annonce donc son départ. Même décision pour le Burkina Faso et le Mali. Les 3 pays qui ont chacun connu un coup d'État et sont désormais regroupés au sein d'une alliance des États du Sahel ont déjà claqué la porte d'une autre organisation, la CEDEAO.
Ces 3 pays avaient donc été sanctionnés dans le passé par l'Organisation internationale de la francophonie et ils dénoncent ce qu'ils appellent le deux poids deux mesures de l'organisation.
Oui, l'OIF, disent-ils, au lieu d'accompagner nos pays dans la réalisation des objectifs légitimes des populations, s'est illustré par l'application sélective de sanctions. L'organisation en effet s'est montrée beaucoup plus clémente envers d'autres pays qui ont connu eux aussi des coups d'État. La Guinée, réintégrée à l'organisation en octobre dernier, alors que le pays n'a toujours pas de calendrier précis de fin de transition, ou le Gabon. Ces 2 pays sont beaucoup plus proches de la France, alors que le Niger, le Burkina et le Mali, eux, ont rompu avec fracas avec l'ancienne puissance coloniale.
Enfin, en Belgique, nous allons revenir un instant sur la disparition de la comédienne Émilie Dequesne. Elle avait tourné avec les Frères Dardenne, avec Lucas Bellevaux, Joachim Lafosse ou encore Lucas Daunt. Mais on retient aussi d'elle sa personnalité généreuse et son combat contre la maladie, Jacques.
Originaire de Chièvre, dans le Hainaut, Émilie Dequesne avait été révélée à l'âge de 17 ans dans le film Rosetta, un film pour lequel la comédienne remportera au Festival de Cannes le prix d'interprétation féminine. C'était en 1999.
Émilie Dequesne dans Rosetta.
Là déjà, je voudrais embrasser ma famille qui doit certainement voir à la télévision. Je les aime très fort, je voudrais embrasser maman, papa, Audrey. Et tous les autres, ils sont hyper nombreux. Je voudrais remercier les frères, surtout, de m'avoir donné cette chance.
Les frères, ce sont les réalisateurs Luc et Jean-Pierre Dardenne, très émus par la disparition de l'actrice. Le film, le premier pour Émilie Dequesne, donnera son nom au contrat Rosetta des conventions de premier emploi pour des jeunes âgés de moins de 26 ans. Mais Émilie Dequesne, c'est encore une 40aine de films et de nombreuses récompenses. C'est aussi une jeune femme qui se distinguera par son combat contre la maladie quand elle découvre qu'elle est atteinte d'un cancer de la glande surrénale en 2023.
Mais le cancer, c'est pas une maladie honteuse. Premièrement, c'est déjà tellement dur, on se sent déjà tellement seul. Si en plus de ça, je dois me taire, ça parle hein, dans ce métier. Il était hors de question que des choses se disent, que n'importe quoi se dise.
De nombreuses personnalités ont salué son talent et son courage, comme l'actrice Déborah François.
C'était ma grande sœur et c'était notre grande sœur à toutes les filles qui ont eu la chance de tourner avec les frères Dardenne après. Donc Donc évidemment, ça laisse un vide. Mais j'ai vraiment envie de me rappeler, voilà, plus de sa lumière et plus de ce qu'elle nous a apporté. C'était un rayon de soleil, quoi, vraiment.
Émilie Dequesne avait 43 ans. Ses funérailles auront lieu mercredi à Paris.
Jacques Crémers et la RTBF pour refermer l'accent des autres cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous et bien sûr à la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Et merci Olivier Nederland, excellent week-end, excellente semaine à vous.
Vivre ailleurs.
Les premières assises de la protection sociale des Français de l'étranger lancées la semaine dernière à Paris. Initiative visant à protéger les 3 millions de citoyens français vivant hors de l'Hexagone. Florian Bohème est à l'origine de ces assises, lui qui est conseiller pour les expatriés au Cambodge. Il répond ce matin à Corinne Manjou pour Vivre ailleurs.
Quand vous êtes au bout du monde, et surtout en ce moment, vous faites face à de nombreuses crises partout. La France a mis en place depuis très longtemps un dispositif d'accompagnement des Français, notamment les bourses scolaires pour les élèves français qui vont dans les écoles françaises. C'est aussi le cas pour la caisse des Français à l'étranger, c'est-à-dire l'accès à la santé et des remboursements possibles quand vous êtes à l'étranger. Et enfin, des aides sociales pour les Français qui sont les plus en difficulté. C'est ça, la protection sociale des Français de l'étranger.
Et quel est le but de ces assises ?
Le but de ces assises, c'est de faire le point, de savoir où est-ce qu'on en est, parce que tous ces dispositifs, ils ont été créés à peu près dans les années 80. On est en 2025, on s'aperçoit que les finances de l'État français, mais d'une manière générale, les budgets sont plus là. Et donc, il faut faire le point pour savoir où est-ce qu'on souhaite aller dans les 20 ou 30 prochaines années.
Alors, vous parlez des trois thématiques, bourse scolaire, aide sociale et l'avenir de la Caisse des Français de l'étranger. Pourquoi s'être limité à ces trois aspects ?
Il y a bien évidemment plein de sujets sur la protection sociale des Français de l'étranger et on va dire que ces trois thèmes sont ceux qui ont été posés par le gouvernement et sur lesquels nous allons travailler directement. Mais bien évidemment qu'il y a tout un tas de sujets. On a commencé nos travaux et l'état des lieux. La prise en compte du vieillissement, la prise en compte du grand âge. C'est par exemple quelque chose qui aujourd'hui n'apparaît pas directement dans le champ des assises, mais sur lequel on va aussi essayer d'explorer. Je crois que l'idée du gouvernement, elle est assez simple finalement, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de se dire voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui à l'instant T, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les dispositifs pour garder un haut niveau de protection sociale pour les Français de l'étranger en couvrant les nouveaux besoins.
Et comment participer à ces assises ?
Ces assises, c'est d'abord un moment citoyen. C'est la première fois que les Français de l'étranger ont cette consultation que pour eux, à l'initiative du gouvernement, organisée par l'Assemblée des Français de l'étranger. Et donc moi, j'incite vraiment toutes les Françaises et Français de l'étranger qui s'intéressent à ces questions, qui se posent aussi probablement des questions sur leur avenir, de venir contribuer sur le site de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il y aura des réunions, des mobilisations citoyennes qui seront organisées, je pense, partout dans le monde, puisque vous avez des conseillers des Français de l'étranger qui vous représentent partout dans le monde. Et donc, ces élus organiseront aussi des réunions citoyennes sur tous les territoires, finalement.
Vous prévoyez la rédaction d'un livre blanc au terme de ces consultations. Pourquoi ?
Nous, on est là pour organiser une mobilisation citoyenne des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. On n'est pas là pour prendre la décision. La décision, c'est le rôle du gouvernement français et c'est aussi le rôle du Parlement. La France est une grande démocratie et dans ce moment, aujourd'hui, il y a le gouvernement et le Parlement et c'est pour ça que les actes des assises que l'on va remettre au gouvernement et au Parlement probablement fin octobre 2025 seront là avec une liste de recommandations et charge aux décideurs publics de prendre leurs responsabilités et de mettre en application les recommandations qui sont faites.
Alors, ces assises sont une initiative inédite. Comment vous est venue l'idée de ce projet ?
En fait, tout est parti d'une mobilisation avec 136 élus, conseillères et conseillers des Français de l'étranger. On est dans le monde entier, je le rappelle. Parfois, à plusieurs heures de Paris. Moi, j'habite au Cambodge. C'est 13 heures d'avion pour venir ici. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la France est à la peine. Et nous, en tant que Français de l'étranger, vous savez, on est les porte-drapeaux de notre beau pays partout dans le monde. Et on aime cette France. Et on a envie qu'elle continue justement à servir les Français de l'étranger parce que la protection sociale, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Mais notre diaspora fait 3 millions de personnes dans le monde. Ça, c'est une puissance extraordinaire pour le pays et c'est ça qu'il faut encourager. Et donc cette mobilisation, elle part de ça finalement, de dire comment est-ce qu'on fait pour maintenir nos communautés françaises partout.
Florian Bohème, invité de Corinne Manjou pour Vivre ailleurs. C'est ainsi que se referme cette demi-heure d'infos. Merci à Benoît Vandenbroek à la réalisation, Grégory Lesca à la rédaction en chef. Dans un instant, le retour de l'info africaine sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Que faire du bois des Veya une fois que les plantations arrivent en fin de cycle? En Côte d'Ivoire, un programme de recyclage a été initié pour transformer le bois des Veya en bois d'œuvre et en bois d'énergie, ce qui garantit des revenus additionnels pour certains producteurs.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tout à l'heure à 13h10 TU, sur RFI. Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.